Bonsoir, Fatem Momeni de la tribune de ce soir, à savoir relation RDC Congo-Brazzaville. Dans un communiqué signé par le ministre des Affaires étrangères de la RDC, Kinshasa rappelle avec effet immédiat, en l'espace d'une semaine, son ambassadeur et 5 diplomates accrédités à Brazzaville. Dans notre deuxième thème de ce soir, nous allons nous rendre à l'Assemblée nationale, où plusieurs plénières sont reportées depuis le début de la session en cours, qui pourtant est la dernière des 7 législatures. Nous terminerons notre émission par la grève des enseignants depuis lundi dans les écoles catholiques de Kinshasa. Ils exigent entre autres les paiements de leurs salaires de janvier et février. Trois confrères sont avec moi dans cette émission pour le débat. Jean-Claude Bimoala est le journaliste au tri-hebdomadaire Climat Tempéré. C'est un journal qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Jean-Claude.
Bonsoir.
Ambroise Mamba, journaliste à Congo Web Télévision, une télévision privée qui émet depuis Kinshasa. Bonsoir Ambroise.
Bonsoir Kelly.
Et Baba Isaac Kalonji, il est journaliste analyste indépendant. Il intervient depuis la province du Kasaï-Oriental. Bonsoir Isaac Kalonji.
Bonsoir madame.
Merci de nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM et à travers le monde sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Et comme d'habitude, avant d'entrer dans le vif de notre débat de ce soir, on va jeter un coup d'œil dans les colonnes des journaux kinois pour voir comment la presse écrite a analysé les sujets retenus pour vous ce soir. La revue de presse avec vous, Samuel Kachat.
Bonsoir. Les journaux parus cette semaine à Kinshasa ont, entre autres, abordé la question relative aux relations diplomatiques entre la RDC et le Congo-Brazzaville, de l'absentéisme des députés aux plénières de l'Assemblée nationale et enfin de la grève des enseignants dans les écoles catholiques de Kinshasa. La tempête des tropiques estime que les torchons brûlent entre Kinshasa et Brazzaville. Selon ce journal, réclamant l'extradition du général et du milicien Oudjani, la RDC a décidé de rappeler son ambassadeur accrédité à Brazzaville, ce qui fait dire à la tempête des tropiques que les relations diplomatiques entre les deux Congos sont au bord de la rupture totale. Sur un autre registre, Le Phare, parlant des absences répétées des députés à l'Assemblée nationale, estime que les députés nationaux sont tentés par la distraction, ce qui est perçu selon ce journal comme un mauvais signal pour cette session parlementaire. La prospérité parle, lui, d'une session de mars menacée à l'Assemblée nationale suite à l'absentéisme des députés aux plénières. Comme raison avancée selon la prospérité, les députés sont démotivés suite au non-paiement de leur arriéré de collation des commissions. Terminons cette revue de la presse avec la grève des enseignants dans les écoles catholiques de Kinshasa. Le potentiel qui revient sur ce sujet titre « Grève des enseignants, le Front social bouge ». À l'initiative des synergies des syndicats des enseignants de la RDC, les enseignants du cycle primaire et secondaire des établissements publics, principalement ceux des écoles conventionnées catholiques, observent un arrêt de travail depuis le vendredi 25 mars. Dans leurs revendications, les grévistes exigent des réponses claires et immédiates du gouvernement sur deux points essentiels, à savoir le paiement des salaires des mois de février et mars, ainsi que la convocation par l'exécutif national de la commission de politique salariale issue des conclusions paritaires pour étudier le nouveau barème salarial des enseignants à la filière publique de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel.
Merci Samuel Kachak pour ce journal des journaux. Jean-Claude Bimoala, vous êtes journaliste au tri-hebdomadaire Climat Tempéré. C'est un journal qui paraît à Kinshasa. Un petit commentaire sur cette revue de presse.
Oui, mais moi je pense qu'elle ressasse toute l'actualité de la semaine et coup de chapeau à votre série.
Merci Jean-Claude Bimoala. Ambroise Mamba, y a-t-il, je rappelle que vous êtes journaliste à Congo Télévision, une télévision privée qui est née depuis Kinshasa, y a-t-il une autre information qui était d'actualité pendant la semaine, hormis les trois qui feront l'objet de notre débat ce soir?
Non, pas du tout, mais l'actualité que les confrères n'ont pas pu réaliser, c'est peut-être les prestations entre le secrétaire de l'ANP, l'ancien ANP, qui est aujourd'hui ANP, qui se sont retrouvés à la salle présidentielle en train d'amender la charte.
Merci Ambroise. Isaac Kalongi, vous intervenez depuis la province du Cassa-Oriental. Vous êtes journaliste, analyste indépendant. Qu'est-ce qui fait l'actualité aujourd'hui dans la province du Cassa-Oriental?
Madame, je suis content de votre appel, d'avoir passé à moi pour me contacter. Je vous dis qu'ici, c'est la bataille, l'engouement est total pour la révision du fichier électoral. Le matériel est en train d'être acheminé dans les centres et puis la population est dans l'attente de voir la journée de demain samedi pour voir de quelle manière l'opération va se passer.
L'opération commence demain.
Demain samedi, à partir de 7h30, l'opération commence pour la révision du fichier. Et on va voir comment ça va se passer localement. Le matériel est en train de acheminer vers les centres.
Et la population du Kassai oriental est prête pour cette opération de révision du fichier électoral?
Depuis l'implication de leur leader, ce que dit, je crois que tout le monde est prêt pour s'impliquer dans le processus d'enrôlement et puis la révision du fichier électoral, ce qu'on donne, c'est une actualité, c'est une nouvelle qui préoccupe toute la province.
Merci Isaac Kalongi. Premier terme de ce soir, relation RDC Congo-Brazzaville. Dans un communiqué signé par le ministre des Affaires étrangères de la RDC, Kinshasa rappelle avec effet immédiat son ambassadeur accrédité à Brazzaville. Après l'ambassadeur, la République démocratique du Congo décide de rappeler encore 5 diplomates en poste à Brazzaville. Ces diplomates doivent, avec leur famille, traverser le fleuve ce week-end. Cela porte au nombre de 6 diplomates RDC congolais sur 10 en poste au Congo-Brazzaville, rappelés en l'espace d'une semaine. Patrick Mutombo est porte-parole du ministre congolais des Affaires étrangères. Il donne les raisons de ces rappels au micro de Innocent Olinga.
La raison, c'est comme l'avait déjà rappelé le ministre des Affaires étrangères lui-même, c'est qu'il y a des situations que nous devions clarifier dans nos rapports, et c'est déjà quelques avancées. Je vous informe ici que Brazzaville et Kinshasa ne sont pas en rupture. S'il n'y a pas de rupture, il y a des nuages. Appelez ça comme vous voulez, mais Brazzaville et Kinshasa ne sont pas en rupture. Nous sommes en train de vouloir clarifier certaines situations,
lesquelles,
et des situations embarrassantes, mais que nous allons tout à fait arranger dans les jours à venir. Nous sommes d'affaires, nous trouverons des solutions. Il y en a d'autres qui disent que c'est une querelle de cousins ou de voisins.
Il y a déjà 6 rappelés, il reste 4. On craint que prochainement, ils soient aussi rappelés.
Pas moi qui escalade, mais jusqu'à ce jour, il n'y a pas escalade, il n'y a pas rupture.
Pour leur part, les autorités de Brazzaville disent ne pas être informées de cette décision de rappel de l'ambassadeur de la RDC. Ambroise Mamba, quelle analyse faites-vous de cette situation? Le gouvernement congolais, je dirais le ministre des Affaires étrangères, rappelle l'ambassadeur et 5 autres diplomates à Kinshasa. Le gouvernement de Brazzaville ne pas être informé de cette décision. Comment vous analysez cela?
D'abord, je voudrais réagir par rapport à la réaction tout à l'heure du ministère des Affaires étrangères lorsqu'il estime qu'il n'y a pas rupture, mais on veut seulement clarifier le rapport entre Kinshasa et Brazzaville. Mais quand il faut clarifier le rapport, on appelle l'ambassadeur, 4 ou bien 5 autres diplomates sont restés et puis on les a rappelés avec effet immédiat. Et là, on constate qu'il y a rupture. On ne peut pas parler on ne peut pas éviter de parler de rupture quand on a rappelé tous les diplomates accrédités dans une ville et puis on a dit de parler de rupture. Il y a effectivement rupture. Et ce qui m'inquiète, c'est le fait qu'on ne veut pas dire pourquoi on a rappelé l'ambassadeur.
À entendre le porte-parole du ministre, vous pouvez utiliser tous les qualificatifs que vous voulez, mais éviter le mot rupture.
Effectivement, si il nous permet de pouvoir utiliser les qualificatifs qui nous voulons, nous parlons de la rupture. Parce que quand on rappelle un ambassadeur, si on veut clarifier les rapports entre deux villes, on devait laisser les autres travailler et l'ambassadeur devait rentrer pour donner des nouvelles instructions par rapport à cette clarification. Mais quand on rappelle ce qui était resté, nous on constate qu'il s'agit d'une rupture, même si le ministère des Affaires étrangères ne veut pas parler de la rupture. Et la raison principale ne pas donner, et à mon avis, ce ne sont pas des choses à pouvoir encourager. Les deux villes sont obligées à vivre ensemble, les populations sont obligées par l'histoire à vivre ensemble. Il s'agit des deux capitales les plus rapprochées du monde. On ne peut pas quand même encourager les situations, ça ne nous avance pas. Étant donné que quand il y a des problèmes dans l'une ou l'autre ville, il y a des cafards qui sont souvent chassés, ils vont se réfugier dans l'une ou l'autre ville, et à ce moment-là, il ne faudra pas soutenir une rupture des relations entre Kinshasa et Brazzaville, étant donné qu'il s'agit des frères ou des cousins ou cousines, Et là, le ministère des Affaires étrangères congolais devait clarifier la situation et pour dire pourquoi il y a la rupture. Et voilà pourquoi les gens font même allusion à l'attaque contre les palais présidentiels. Il y a ceux qui parlent d'une certaine extradition non exécutée par Brazzaville du général José Mounené, ainsi de suite. Et là, à ce niveau, il faut être très clair, qu'on soit un peu clair. Et vous avez parlé de la réaction des autorités brazzavilloises qui n'ont pas été informées de ces rappels, par exemple. Et là, on constate qu'il s'agit d'une rupture.
Jean-Claude Bimola, qu'est-ce qui serait, selon vous, à la base de ce rappel des diplomates congolais accrédités à Brazzaville?
Oui, moi je pense que je veux faire un petit saut dans l'histoire. Dans la relation entre Brazzaville et Kinshasa, on a l'impression que l'histoire se répète. Notre éditorialiste avait titré pendant la semaine du mardi « Odeur de crise à Brazzaville ». Et il a puisé dans l'histoire son argumentaire. Il disait ceci, vers les années 70, entre Kinshasa et Brazzaville, c'était déjà la bruie. Mais il y a deux coïncidences, il y a deux curieuses coïncidences. Dans la politique intérieure de la RDC, il y avait déjà ce petit conflit entre l'État et l'Église, et dans les rapports avec nos voisins, il y avait cette bruit. Avec l'Église, bon, on comprend dans la dynamique de la réalisation avec tous les excès, le cardinal Malula à l'époque avait pris position pour la justice distributive, pour l'égalité et pour beaucoup d'autres valeurs que l'Église catholique défend. Les combats étaient presque cristallisés au point où le cardinal était obligé de s'exiler. Dans les rapports entre Kinshasa et Brazzaville, c'est encore un peu la bouille. Déjà en 1970, face à la succession de coups d'État manqués dans le régime communiste de Brazzaville, et Kinshasa a été vite accusé comme auteur. Et il s'est installé effectivement un climat de suspicion permanente. 40 ans après, on a l'impression que l'histoire se répète. Avec l'Église, on en parlera dans le second sujet de l'actualité, mais avec entre les comptes de Kinshasa, les rappels de l'ambassadeur étaient un signal fort qui a problème. Bon, on peut le qualifier comme on le veut, mais il y a problème dans nos relations avec Brazzaville. Et le porte-parole du ministre a dit qu'il faut clarifier. Mais on note, certains analystes notent un manque de courtoisie diplomatique. Quand on rappelle un ambassadeur, on prévient la partie adverse au besoin. On fait intention de ses préoccupations, ce qui n'a pas été fait. Mais on sait que dans la politique interne, ici, on accuse Kinshasa rétroche à Brazzaville, et ça, c'est les sources officielles. La responsabilité, bon, une passivité dans l'attaque qui a failli porter un coup dur dans les institutions de la République. On cite également les camps Oujani ou la soixantaine.
Vous parlez des sources officielles?
Oui. Oui. Et la soixantaine d'hommes armés arrêtés dans le Bas-Congo, dont qui auraient des bases arrières à Brazzaville. Donc voilà un tout petit peu un chapelet de revendications que Kinshasa veut faire entendre à Brazzaville. Et je pense que c'est cela la source des tensions actuelles. C'est une tension quand même.
Baba Isaac Kalonji, vous intervenez depuis la province du Kassai-Oriental. Comment vous analysez cette situation?
Madame, je suis content de la question. Je vous apprends que présentement, l'hygiène diplomatique souffre. Nos relations ne sont pas au beau fixe entre le Congo, Brazzaville, le Congo d'en face et la RDC de Congo. Je sens, les intervenants de tout à l'heure disent que le rappel du corps diplomatique congolais du Congo Brazzaville vers Kinshasa, c'est un signal fort. Et moi, je vous apprends que les faits sociaux sont totaux et globaux pour ceux qui ont fait la sociologie ou les sciences politiques. Donc, les faits là sont tels que d'ici demain, si on ne sait pas procéder par la résolution du conflit latent qui existe entre les deux pays, même Brazzaville sera obligé de rappeler aussi ses ambassadeurs à Kinshasa et ce sera consommé. Or, en face du Congo Brazzaville, nous avons la RDC Congo qui a besoin d'un assainissement environnemental pour les élections qui doivent nous permettre d'atterrir en douceur en novembre 2011. Présentement, s'il y a un petit conflit au cours des deux pays, il faut faire en sorte qu'on puisse procéder à la négociation au lieu de faire un rappel brutal des diplomates congolais qui étaient à Brazzaville. Donc, je sais que les jeunes diplomatiques évoluent, les relations entamées, il faut que tout le monde s'y mette pour qu'on trouve un compromis rapidement. Ça va nous permettre d'avoir un environnement favorable à la tenue des élections démocratiques, transparentes, évoluées et libres.
Ambroise Mamba, est-ce que cette question pourrait avoir des conséquences sur les relations entre les deux États?
Pourquoi pas? Ce sont des relations diplomatiques qui connaissent un virus. Quand il y a un virus qui pénètre ces relations diplomatiques, ça a des conséquences. Et les deux populations risquent d'avoir des problèmes très sérieux.
Quels sont les problèmes, par exemple?
Notamment, vous savez, aujourd'hui, quand vous allez au BIC, au Gobi, là tout à l'heure, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de compatriotes congolais qui font Brazzaville, qui achètent des marchandises à Brazzaville pour venir vendre, revendre à Kinshasa, par exemple. Et il y a ceux de Brazzaville qui font la même chose pour le Congo. Et à ce moment-là, quand il y a rupture, on risque même de fermer les frontières, par exemple, et ça va porter un préjudice sur les populations locales, et on n'a pas besoin de tel scénario.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cette rupture entre les deux États?
Il faut être sérieux, il faut se parler sérieusement. Il faut que les autorités de pays abordent la situation de manière sérieuse. S'il s'agit de l'extradition de Fossé Mounené, par exemple, de Ounjani, ou s'il s'agit des attaquants contre le palais présidentiel qui auraient établi leur base arrière à Brazzaville, qu'on aborde la situation sérieusement. Parce que jusque-là, le confrère a parlé des sources officielles. Moi, je ne pense pas qu'officiellement, il y avait des sources selon lesquelles, il y avait des informations selon lesquelles ces gens-là auraient établi une base arrière à Brazzaville. Ça, c'est dans les rumeurs. Mais si, au terme des enquêtes, au terme de l'interrogatoire que ces insurgés ont subi, peut-être qu'il y a eu d'autres informations, mais que le gouvernement congolais ait le courage de pouvoir aborder la question sérieusement avec le gouvernement de Brazzaville. Et on n'a pas eu une divergence, sinon on n'a pas besoin de tel scandale, à mon avis.
Jean-Claude Bimoy, là, Isaac a parlé tout à l'heure des négociations entre les deux États, au lieu de rappeler avec effet immédiat les diplomates congolais. Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, mais moi, la question que je veux bien me poser, c'est de savoir si les éléments évoqués suffisent pour déclencher une crise. Je me souviens qu'il y a une année, lorsque un coup d'abattoir était arrêté à Kigali, nous avons célébré les mariages en nommant un ambassadeur à Kigali. Et Nkunda Batoua n'a jamais été rapatrié à Kinshasa. Donc, si c'est cela, si c'est cela qui se passe pour les cas Brazzaville, il y a disproportion. Il y a effectivement disproportion dans la démarche du gouvernement et même incohérence. Mais moi, je pense que les deux gouvernements doivent faire preuve. C'est le nôtre qui a déclenché l'escalade, il doit faire preuve de beaucoup de modération. Parce que ce représente c'est Brazzaville pour Kinshasa. Brazzaville, c'est un grand marché de la SNEL qui apporte plus ou moins 1 million de dollars par mois à la SNEL. Brazzaville, c'est le pays de résidence de plus de 400 000 Congolais, selon les chiffres de l'OIM. Le but de Brazzaville brasse un flux financier de plus ou moins 1 million de dollars par jour. Brazzaville, en fait, c'est le pays phare de la CIAC. Donc, si Kinshasa veut vraiment asseoir son influence diplomatique dans la région, il doit compter sur Brazzaville et bien réfléchir sur les démarches qu'il doit entreprendre.
Si vous voulez faire la place du gouvernement congolais, qu'est-ce que vous feriez?
Mais il faut négocier, il faut parler avec les Bosniens, il faut se parler, mais moi je ne pense pas que rappeler l'ambassadeur, bon, c'est un coup médiatique.
Les négociations sont en cours entre les deux
États? Les négociations sont en cours, et hier même, deux délégations de haut niveau, celle de la RDC conduite par Lumanu Bwanasuku, celle de Brazzaville par M. Basile Kwebe, le ministre des Affaires étrangères. Et je pense que le communiqué lu hier tard dans la soirée, c'est preuve de beaucoup de modération.
Isaac Kalongi, que faut-il faire pour éviter une rupture des relations entre les deux États?
Mais madame, le gouvernement congolais doit éviter de vouloir une chose en soutenant son contraire. Je suis peiné de constater que même des petites questions comme le dit, résoudre localement entre les deux pays, ce paraît seulement par M. Congo, on recourt à la rupture, même si on l'a pas dit, d'une manière officielle, mais le geste prouve que Congo-Kinshasa n'a pas besoin de continuer à entretenir ses relations en dépit du fait que le président de la République lutte pour une diplomatie agissante. C'est un non-sens que le gouvernement congolais annonce une chose tout en soutenant son contraire. Puisque le président de la République envisage de mener une diplomatie agissante avec les voisins et surtout avec les pays de la CPG, mais ce n'est pas en ce moment précis là qu'on peut rompre avec Brazzaville. Alors, il faut qu'on le dise clairement ce qui se passe, parce qu'en ce moment-là, c'est pratiquement le Congo démocratique qui perd. Nous perdons comment ? Nous sommes pratiquement encadrés par le chef Congo et le Congo Brazzaville. Nous avons un beach et un port qui nous relie au Congo Brazzaville, par lequel passe presque toute la cargaison. Qui aide des artistes à tourner leurs affaires dans un pays sorti de la guerre fraîchement et qui se réchauffe encore. Nous ne pouvons pas entamer le processus de démocratisation avec des conflits avec les voisins. Je préfère qu'on négocie, qu'on cherche un spécialiste en résolution des conflits, qu'on négocie et qu'on mette fin à cette comédie parce que ça ne nous apporte rien.
Merci Baba Isaac Kalongi. Rendons-nous au Palais du Peuple pour parler de l'Assemblée nationale, où plusieurs plénières sont reportées depuis le début de la session en cours, qui pourtant est la dernière, comme vous le savez, de cette législature. Cette situation inquiète certains députés qui parlent carrément d'un cycle des reports. Ces députés craignent que les matières programmées pour cette session ne soient pas épuisées. Notez que le mois de mars étant celui de la femme, la présidence des plénières a été confiée à la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, après l'ouverture de la séance du 21 mars dernier par le président de cette chambre. Plus de détails avec vous, Mimi Ngumba Mulongo.
Probablement, les 78 points retenus pour la session de mars ne seront pas tous examinés. Cela, quand on sait que les députés n'ont que 75 jours de travail pour cette dernière session. Pour s'en rendre compte, il suffit de comptabiliser le nombre de séances suspendues ou reportées faute de quorum. Depuis le 15 mars dernier, une seule session a pu se tenir, c'est celle consacrée à l'adoption du calendrier. Et depuis lors, on est parti pour une série de reports. Le nombre de sièges vides dans la salle de congrès laisse penser que les députés n'ont plus les cœurs à l'ouvrage. Interrogés, certains d'entre eux ne se sont pas voilés la face. Beaucoup ont affirmé qu'ils se sont déjà lancés dans la campagne électorale. C'est ce que confirme l'honorable Freddy Semela de la majorité présidentielle.
Comme vous le savez, c'est la dernière session de la législature. Les députés doivent entrer en contact avec leurs différentes bases. Donc nous avons en tête aujourd'hui les élections qui sont en vue. Qui dit les élections dit également les électeurs.
Même son de cloche du côté de l'opposition, honorable Vicky Mokolenyonso.
Les problèmes de quorum, c'est dit aux députés. Il y a aussi un problème au niveau du bureau. Il faudrait aussi dire les choses de quelle sorte. Donc, les amis de la majorité, dont la plupart n'ont pas été cette fois-ci à la base, et c'est les mecs qui vont en profiter pour aller, puisqu'il y a tout le temps, ils sont du côté qui vont gratter.
Reste à savoir comment les bureaux comptent s'y prendre au regard du volume de la matière inscrite à la présente session.
Jean-Claude, dis-moi là, je sors en report à l'Assemblée nationale en lisant l'article consacré à ce sujet, hein, l'article de votre journal, vous avez écrit « La situation intrigue et inquiète ».
Effectivement, et récemment, il y a une gangrène qui atteint non pas seulement les députés, mais ce qui nous inquiète, c'est que même les membres du bureau désertent le plénière. Bon, ben, la raison, elle est facile à trouver, on parle beaucoup des problèmes d'argent. C'est vrai que les députés ont des arriérés de salaire et même des arriérés des honoraires. Mais moi, je pense que bon, notre relation est allée beaucoup plus loin. Notre éditorialiste pense que la vraie raison est à chercher dans une campagne électorale précoce. Vous vous souviendrez que depuis bientôt une année, nous sommes en campagne électorale. Et les officiels qui sont au pouvoir arpentent les rues, les provinces, pour vanter à grand renfort de médias les bienfaits, le bilan de leur champion, et demandent au peuple de lui renouveler son mandat pour continuer le travail qu'il a engagé, que personne ne l'aurait fait à part lui. Donc le pays est en campagne, et lorsqu'on est en campagne, Voilà, les autres qui se sentent un tout petit peu en état, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se lancer dans la bataille, conséquence, mais bon.
Là, ils doivent se trouver. On sacrifie cette question.
Voilà, là, ils doivent se trouver, ils sont pas.
Et puis, il y a quand même des matières très importantes à traiter au cours de cette session.
Il y a des matières très importantes à traiter. À ma connaissance, il y a la loi électorale, il y a également la loi sur les libertés publiques, la loi sur les forces armées, la loi sur la communication, la loi sur la police, la loi sur la parité homme-femme. Mais voilà, en conséquence, on peut dire que cet absentéisme contre toute attente risque ne profite même pas aux députés MN parce qu'ils n'auront pas les instruments juridiques qui pourront garantir la fiabilité des élections auxquelles ils aspirent.
Embrassement bas.
Excuse-moi, j'aimerais d'abord réagir par rapport à ce que Christian Claude a dit, que même le bureau déserte, je ne pense pas que le bureau déserte parce que je couvre l'Assemblée nationale depuis très longtemps, depuis le début de la législature en cours.
Je peux compléter Jean-Claude en disant, il y a, je crois, la dernière plénière, la vice-présidente s'est retrouvée pratiquement seule.
Je vais donner l'information. Le problème, c'est que d'abord, vous allez apprendre que la vice-présidente, on lui a laissé toutes les plénières du mois dédié à la femme, du mois de mars. C'était un lundi lorsque le président de l'Assemblée nationale, Vincent Bossard, lui-même a confié cette tâche à Madame Georgine Madico, la deuxième présidente, pour présider toutes les séances du mois dédiées à la femme. C'est un signal fort que l'Assemblée nationale voulait donner.
Oui, mais on lui confie les plénières, mais vous avez vu combien de députés assistaient à ces plénières. Est-ce que ce n'est pas un sabotage?
Effectivement, c'est là que je voulais arriver. Le problème, c'est que ce sont les députés. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'au début, lors de la rentrée parlementaire le 15 mars dernier, les députés étaient dans la salle. Le problème, c'est qu'ils sont tentés par la distraction, comme l'ont dit les consoeurs de la presse écrite dans la revue de tout à l'heure. Ils sont tentés par la distraction. Et ils ont eu deux mois après la session extraordinaire qui a culminé par la révision de la Constitution. Ils ont eu deux mois pour entrer en contact avec leur base. J'imagine qu'il fallait le faire à cette époque. Et s'ils continuent à le faire jusqu'aujourd'hui, moi je pense que c'est pas à tolérer, c'est pas une bonne chose. Et parce que là, on va peut-être mettre en difficulté le pays qui a besoin de beaucoup de lois, comme l'a énuméré Jean-Claude, en ce qui concerne la loi électorale. Il faut à tout prix qu'on ait cette loi électorale, puisqu'on veut la modifier pour permettre à la CENI de pouvoir fixer les règles du jeu en ce qui concerne les élections. Il y a aussi la loi concernant la mise en œuvre de la parité homme-femme. Ça, on n'en parle pas, vous êtes femme, ça vous concerne aussi. Mais la loi sur les libertés publiques, nous allons faire les élections, il faut également qu'on fixe l'opinion sur toutes ces lois et les députés doivent être appelés à un sens élevé de responsabilité à ce moment-là. Et s'ils cessent leur siège comme ils le font actuellement, et je pense que c'est pas bon pour eux et ils risquent de mettre en danger le pays. Je ne sais pas si aujourd'hui les députés ne veulent pas, c'est la dernière session, je ne sais pas s'ils veulent qu'on leur encore prolonge quelques jours pour qu'ils bénéficient. Mais curieusement, ce qui est curieux, c'est qu'ils sont absents, mais ils bénéficient de leurs émoluments. Et ils ne disent pas que non, écoutez, j'ai été absent, je vous fais un cadeau, je ne prends pas mon argent, ainsi de suite. Mais ils bénéficient de leurs émoluments, mais tout en étant absent. Et ça, c'est dangereux. Et je m'imagine que comme le président de l'Assemblée nationale, qui est aussi secrétaire général du PPRD, vous l'avez appris comme il a fait la tournée, on parle de la pré-campagne, et bon, il est dans les stratégies, il est dans la réorganisation des activités.
Mais parce que ce n'est pas un problème.
Il n'y a pas de discours électoraliste, on sait qu'il fait, pour qu'on parle d'une campagne électorale précoce, les gouvernements qui ont fait une peu tardé, mais comme il est rentré à Kinshasa.
En privilégie les activités du parti,
il n'a pas privilégié les activités du parti. Vous vous rappelez que lorsqu'il a fait la tournée à travers le pays, c'était pendant les vacances, les deux mois de vacances. Cette fois-ci, il a fait lorsqu'il a confié la tâche de la présidence des séances à la deuxième vice-présidente de la CENI, et ce qui lui a permis de pouvoir prendre maintenant les activités du parti à main, comme il pouvait pas assister au plénière pendant que la deuxième vice-présidente préside les séances. Il n'y a pas les discours électoralistes de toute façon dans ce qu'il fait, mais ce sont des activités de redynamisation du parti, et on ne peut pas lui en vouloir pour ça.
Vous voulez ajouter un mot, Jean-Claude Dumont?
Non, je voulais plutôt contredire mon frère pour dire que les gens de la majorité sont véritablement en campagne. La campagne, c'est quoi?
Pas de l'opposition?
Bon, mais c'est eux qui ont donné le temps. Parce que la campagne, c'est quoi? C'est vendre un programme et demander aux autres de me réélire pour tenir un programme. C'est ça la campagne. Qu'est-ce que je vais attendre encore par la campagne? Nous sommes en campagne depuis une année.
Vous avez des preuves que les députés de la majorité sont en campagne?
Oui, ils sont en campagne.
Baba Isaac Kalogi, qu'est-ce qui serait, selon vous, à la base de cet absentéisme des députés aux plénières?
Madame, je sens présentement ici en mouvement qu'il y a beaucoup de non-dits dans le comportement des députés. Les uns parlent du salaire qui n'arrive pas, mais les autres ne veulent pas dire la vérité sur le sort qui sera réservé aux députés, membres de l'ancienne majorité, et avec la configuration de la nouvelle majorité présidentielle, décidée par le comité moral du chef de l'État Kabila. Et ils ne veulent pas dire clairement ce qu'ils pensent en s'absentant de séance. Deuxièmement, les députés savent qu'ils ont reçu mandat du peuple. Ils ont reçu notre mandat pour aller défendre notre corps. Et comme moi je suis redresseur de corps, correcteur des erreurs au niveau des médias, je suis en train de voir autrement le comportement de nos députés dans une assemblée qui est difficile à faire atteindre le quorum. C'est un non-sens que ceux qui ne sont pas payés, mais qui ont le pouvoir de contrôle sur l'exécutif, se retirent d'une séance pour se plaindre qu'on s'est contredit, alors qu'eux, ils ont le contrôle sur l'exécutif. C'est encore un non-sens pour moi que ce même député-là, qui a reçu le mandat du souverain du maire, qui ne semble pas proposer des lois en faveur du souverain du maire, c'est-à-dire le social, la population, mais qu'ils luttent plutôt pour leur compte, pour leur vente, et qu'ils se comportent aussi de cette manière à la fin du mandat, alors que les élections s'annoncent pour novembre 2011. Et dommage, c'est regrettable, madame, je suis au regret de voir que les députés n'ont pas pris conscience de leur rôle.
Isaac Kalogi, quelles seraient les conséquences de cet absentéisme sur les calendriers de matière à traiter au cours de cette session?
J'ai comme l'impression qu'ils veulent retarder la tenue des élections. Mais ils font ça par astuce. Ils se comportent de cette manière, puisque avec l'absence de la loi électorale pouvant définir les contours de la tenue de l'organisation de ces élections de 2011, ils savent bien qu'on peut prolonger et le mandat de l'exécutif, qui est au pouvoir, et leur mandat pour lancer leur poche, tout simplement, et pérenniser la pauvreté de la population et socialiser le peuple.
On passe Mamba, ils veulent retarder la tenue des élections, réaction.
Pas qu'ils veulent retarder la tenue des élections. La tenue des élections est liée, à mon avis, à la mise à jour des listes électorales, la révision des listes électorales, qui semble un peu retarder les choses. Et c'est ce qui sera peut-être qu'on puisse avoir des élections dans le délai. Et si la CENI peut accélérer les choses, je pense que ça va aller. Mais si on obtient la loi électorale bien avant, ça va permettre à la CENI également de pouvoir accélérer à la vitesse dans ces opérations. Comme ça, on a au moins une idée de ce qui pourra se passer pour la tenue d'élection. Mais les députés, à leur avis, ce n'est pas à eux de pouvoir gagner l'élection, c'est à la CENI de gagner l'élection.
Mais voter la loi.
Il a voté la loi, effectivement, c'est ce qui est très important. Voilà pourquoi j'ai souligné, j'ai salué les retours à Kinshasa de l'Antimochab. Et comme il est rentré, le mois de la femme a touché à sa fin. Et la deuxième vice-présidente va remettre le fauteuil à Eras Bouchard. Et je pense qu'il se prend très bien et ça va aller de l'avant. Les députés, cette fois-ci, s'ils n'avaient pas peut-être voulu être gérés en séance plénière par une femme, cette fois-ci, c'est un professeur d'université, le tout premier professeur en droit constitutionnel qui est au perchoir de l'Assemblée nationale. Je pense que cette fois-ci, ça va aller et on aura la loi électorale pour qu'on permette à la CENI de pouvoir organiser les élections dans le délai.
Et vous pensez qu'avec le retour de Bouchard, les députés vont venir assister aux plénières?
Je pense, oui, parce que cette fois-ci, ils n'auront plus d'excuses. On a parlé, peut-être qu'ils voulaient récupérer d'autres idées par rapport...
Ils n'auront plus d'excuses, parce que c'était une femme, on pouvait s'attenter comme on veut. Et maintenant que le président revient, il n'y a plus d'excuses.
Je pense qu'ils ont été rappelés à l'ordre. Et Eva Spossab, quand il était en tournée à travers le Kasaï occidental, c'est pas qu'il avait croisé les bras, ils ont été rappelés à l'ordre. Et les députés vont devoir... Il a toujours bien collaboré avec les présidents des groupes parlementaires, et je pense que les présidents des groupes parlementaires ont rappelé les députés à l'ordre, et je pense qu'ils vont répondre présent cette fois-ci pour que les plénières se tiennent et qu'on permette à la CENI qu'on lui donne cet arsenal juridique lui permettant de pouvoir organiser les élections dans les délais. Et je pense que les autres lois, puisqu'il y en a beaucoup, on ne pourra peut-être pas terminer toutes les lois pendant une seule session, c'est pratiquement impossible. Voilà pourquoi on a créé même une banque de données, pour qu'on permette à la session à venir de pouvoir s'occuper de ces matières.
Merci, Ambroise. Jean-Claude Dumoila, vous pensez qu'avec le retour de Marie Boussiab, les députés vont reprendre le Sénat du Palais du Peuple?
Non, moi je pense que ces actions, aussi éparses qu'elles soient, aussi anodines qu'elles soient, je pense qu'elles sont coordonnées. Cet absentéisme et toute cette pré-campagne dont on a parlé vont nous conduire certainement à une évidence qu'on n'est pas en mesure d'organiser l'élection parce qu'on n'a pas eu de loi, parce que. Et ne vous égarez pas, on y arrivera bientôt.
Merci Jean-Claude. Dis-moi la dernière thème de ce soir, grève des enseignants dans les écoles catholiques de Kinshasa. Ils exigent entre autres les paiements de leur salaire de janvier et février. La grève des enseignants des écoles catholiques s'est durcie dans la capitale, j'allais dire. Déjà le mardi, beaucoup des parents ont préféré garder leurs enfants à domicile. Voici le constat de Rachel Ndikaï, qui a fait la ronde des quelques écoles de Kinshasa.
La ronde a commencé par le lycée Motemampiko de la commune de Kassavubu. L'enceinte de l'école est vide et même dans le salle des classes, les élèves sont absents. Seulement quelques enseignants sont visibles en dehors de cette taillande avec entre autres. Un tableau similaire est observé au collège Saint-Raphaël de l'IMETI conventionné. Aucun élève visible. Au collège Elikia Saint-Joseph de la Gombe, les quelques élèves qui s'étaient présentés hier se sont résolus de rester carrément à la maison. C'est mardi, c'est le 4e jour depuis que ce mouvement de grève est déclenché. Les enseignants exigent du gouvernement les paiements de 2 mois de leur salaire, soit janvier et février dernier. Rappelons que selon les cabinets du ministre de l'EPSP, la paye de mois de janvier et février vient de commencer dans certaines écoles de la ville.
Baba Isaac Kalongi, je rappelle que vous êtes journaliste, analyste indépendant. Vous intervenez depuis la province du Kasaï oriental. Quelle est la situation aujourd'hui dans cette province? Est-ce que les écoles catholiques sont en grève?
Madame, merci beaucoup de la question. Les écoles catholiques ne sont pas en grève ici. Je ne sais pas trop pourquoi. Et la situation est presque la même. Parce que quand vous partez de nous du 1, 2, 3, c'est une situation de non-retour parce qu'aucune solution n'a été envisagée à ce sujet-là. Les 3 moudis sont passés comme une lettre morte à l'histoire. Maintenant que la morte de la grève à partir de la capitale congolaise permettra peut-être à ceux qui sont à l'intérieur de suivre le même pas. Et en attendant, ici, les enseignants vont à l'école, ils ont parlé aux populations, je ne sais pas si avec la grâce de Dieu, et peut-être parce que c'est une province où, il y a 10 ans, l'enseignement était relégué au second plan, et le gamin avait pris le dessus sur le domaine. Agriculture, éducation et santé. Bon, présentement, au passage, on veut récupérer, peut-être pour cela, c'est par conscience. Les enseignants vont à l'école, ils donnent cours dans une province où, il y a 10 ans, l'enseignement n'avait pas sa place.
On voit ce mandat. Les enseignants, encore une fois, en grève, et c'est toujours les mêmes revendications qui reviennent. Comment on peut expliquer cela? Est-ce que c'est un problème de gouvernance ou de manque de volonté?
Les deux. Problème de gouvernance aussi, manque de volonté. Moi, je ne peux pas comprendre que nous sommes...
Manque de volonté du gouvernement.
Manque de volonté du gouvernement. Parce que, je ne peux pas comprendre, là, je n'ai pas pitié, je ne peux pas comprendre que nous sommes presque à la fin du quinquennat du chef de l'État. Le quinquennat du chef de l'État qui a aussi comme un chantier prioritaire l'éducation. Et lorsque on est presque à la fin de ces quinquennats, qui viennent d'enseignants, qui vont en grève pour des revendications, pour lesquelles ils ont signé des protocoles d'accord avec le gouvernement qui a promis de payer chaque 20 du mois les salaires, ce qui n'a pas été fait, Comment le gouvernement se justifie? Il n'y a pas de réaction, c'est le silence radio du côté du ministère de l'EPST. Et là, je trouve que on ne peut pas aider le chef de l'État pour concrétiser son vœu de voir l'éducation être appliquée. Et là, si les enseignants ne sont pas payés, à mon avis, la qualité de l'enseignement baisse et il y a des conséquences. Et si les enseignants ne sont pas payés, l'année sociale, c'est encore un échec qui a été trop absente en 2010, qui s'absente encore en 2011, on tend vers les élections. On ne peut pas être le chef de l'État et là, le gouvernement devait quand même réagir
en s'apaisant
en payant les salaires des enseignants. C'est pas l'argent qui manque, c'est peut-être la mauvaise volonté parce qu'on estime les hautes volontés, problème de gouvernance. Et là, le gouvernement doit réagir directement pour quitter les tirs. C'est une situation qui va en défaveur du chef de l'État qui a pris l'éducation comme un chantier prioritaire de son quinquennat. Et là, c'est pas important. Hein.
Jean-Claude, dis-moi là, qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour mettre fin à ces grèves à répétition?
C'est le respect de la parole donnée. Je pense que dans ces partenariats, quelqu'un qui ne remplit pas son contrat, les enseignants enseignent, mais le gouvernement ne paye pas. Un secret, il y a une partie qui ne remplit pas son contrat et cette partie connaît bien le problème.
Mais ça va continuer comme ça jusqu'à quand?
Non, mais comme il y a aussi un problème de bonne gouvernance, je pense que quand quelqu'un travaille, il faut le payer. Nous sommes dans une société où tout est marchand. Alors, comment vous voulez que les enseignants aillent enseigner sans rien attendre? Alors que tout le monde revendique, même les députés revendiquent, ils grèvent. Pourquoi les enseignants ne peuvent pas gréver?
Et est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen pour revendiquer que de gréver?
Je pense que c'est la seule voie que le gouvernement entend.
Oui, en bas,
il n'y a pas d'autre moyen pour revendiquer. C'est la grève qui est la plus importante. C'est l'arme de l'enseignant. En dehors de la grève, l'enseignant n'a pas d'autre arme. Pour faire entendre sa voix, il faut gréver. Et à ce moment-là, les gouvernants, l'autorité politique répondent facilement quand il y a des grèves. Mais ici, je voulais aussi signaler que dans les écoles catholiques, il y a aussi une convention qui a été signée entre les parents et les enseignants. Ben, les parents auraient payé les frais scolaires de leurs enfants et ils voient leurs enfants n'est pas étudiés. Et là, il y a des inquiétudes. Mais à cette question, les enseignants répondent tout de suite qu'ils ne sont pas en contrat avec les parents. Les parents ne sont pas leur employeur. Leur employeur, c'est l'État congolais. Et ils ne souhaitent même pas que cette prime des parents continue. Et là, je pense qu'il faut soutenir les enseignants dans cette démarche. Et si les parents comprennent et que les parents cessent de payer les enseignants, comme ça, l'État congolais prend ses responsabilités.
Bah, Jacques Calongi, on va terminer avec vous. Vous pensez aussi que la grève est le seul moyen pour revendiquer ses droits?
Madame, dans une brochure intitulée « Le Vospadilla à l'État de la Nation », fait le discours du chef de l'État devant le Congrès congolais, il déclare que les cinq chantiers font partie de sa vision. Mais lorsque une équipe gouvernementale n'arrive pas à concrétiser la vision de celui qui nomme et qui révoque, mais c'est lui qui nomme et qui évoque prendre des dispositions. Mais il faut qu'on mette ça à tout ce qu'on a dit. Nous sommes à 8 mois de la fin du mandat. Les enseignants ne peuvent pas continuer à vivre dans cette situation-là. Pour moi, la grève est reconnue par la Constitution. C'est un moyen de revendication. Et les enseignants peuvent lui mener la grève. Mais la solution reste du côté du chef de l'État qui doit sanctionner parce qu'il est promoteur de la bonne gouvernance. Il est même l'initiateur de son chantier.
Merci Isaac. Vraie conclusion, on commence par vous, Jean-Claude. Dis-moi là, par rapport à la grève des enseignants.
Non, mais le gouvernement doit prêter attention aux revendications, mais surtout respecter son cahier de charge. Il y a une seule partie qui respecte son cahier de charge, c'est les enseignants.
Même chose également, les gouvernements doivent respecter les engagements qu'il a pris avec les enseignants pour éviter ce scandale aux élèves.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe du Dialogue entre Congolais, Alain Zon, Samuel Katia, sous la supervision de Pélé, Kipé Lamondo. Merci à Dieudonné, Nyanzakakuti, à la technique, au micro, Kéline Couture. Retrouvez cette émission sur notre site internet, www.radio-okapi.net, et diffusion demain samedi, 14h15, heure du Kinshasa. Bon week-end à vous tous, et on se retrouve lundi pour un nouveau numéro du Dialogue entre Congolais. I'm going to go to the next one.
Thank you.